Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
En vrai, ils ont le même type de quasiment le même type de contrat, mais il y a des réalités différentes derrière. Et je pense que PNL, ils sont dans un truc de dire nous, on est indépendants, mais il y a une réalité, c'est qu'à un moment, ils bossent avec Biliv, qui est quasiment une major, qui est cotée en bourse, qui vaut des milliards. Mmh. Et en vrai, à un moment, ils s'appuient sur la puissance de la maison disque et ils sont pas complètement indépendants.
Quand tu vois un artiste et tu vois 4 ou 5 producteurs, même dire 3 producteurs, c'est déjà beaucoup. Et surtout si tu fais un rap, je dirais pas de street, mais qui va te plafonner en termes de stream.
En général, ça sent pas
un
bon.
Artiste, quand un manager, vous êtes 5 à devoir grailler sur un artiste qui a peut-être entre 20 et 25 ans. Ça va être compliqué.
Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et t'es branché sur Dealer Terme sur Bouscapé. Bon, on va commencer avec le sujet, faut-il signer pour percer ? Alors c'est une question qui est hyper large, mais au lieu de vous poser la question comme ça, parce que je pense que c'est un peu trop large et on va aller dans tous les sens, c'est aujourd'hui, est-ce que les maisons de disques ont un réel impact dans l'étape de réussite de l'artiste ? C'est-à-dire, est-ce que lorsque l'artiste signe en maison de disque, on peut dire qu'il a percé ou pas ?
Qu'est-ce qu'on entend par percer, s'il vous plaît ?
En vrai de vrai,
c'est des termes qu'on sache. C'est quoi ? On dirait qu'on a vécu 4 fois ce moment aujourd'hui.
Non mais c'est vrai, mais tu sais.
Avant de me lancer.
Non mais en vrai, c'est pertinent.
C'est précis sur le moment.
C'est vrai. C'est quoi ? Bah alors justement, définis-le.
Parce que des fois. Percer, pour certains, certaines personnes qui sont pas dehors, le public, ça va être. Je sais pas, on le voit à la télé. C'est une marque, on va dire, t'as percé.
On l'a vu sur Bouscapé.
Voilà, tu l'as vu sur Bouscapé,
tu l'as payé sur la maison de disque.
Non, mais c'est vrai. Ou t'as signé en maison de disque. Ou ça veut dire que t'as fait disque d'or. Donc, c'est quoi la définition de percer pour nous qu'on veut utiliser là ?
En fait, le truc, c'est que percer, en vrai, c'est hyper galvaudé. Tu vois, ça veut tout et rien dire à la fois. Ça veut dire, l'artiste, il passe de 1000 à 100 000 vues, il commence à avoir un petit public, des gens qui s'intéressent à ce qu'il fait. Pour les gens, c'est déjà percé. Et pour d'autres, c'est la signature en maison de disque. Moi, je dirais, c'est percé. Alors, on va l'établir comme ça. Et quand l'artiste arrive à en vivre, moi, je pense qu'on peut parler de ça. Ouais. Quand on est à lui, à partir du moment qu'il réussit à se tirer un SMIC, pour moi, c'est percé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a réussi à convertir sa passion en métier.
Donc, c'est ta définition. Ça peut être une définition qui s'entend.
Il y en a tellement, mais moi, je pense que c'est
une définition. C'est une base. C'est quelque chose qui se tient. Moi, je pense que aujourd'hui, les maisons de disques, elles ont encore un apport pour faire en sorte que l'artiste passe à un step supérieur. C'est-à-dire que je pense qu'un artiste, aujourd'hui, la maison de disque, elle ne va pas le prendre de façon générale à 0% d'évolution ou 1% d'évolution. C'est-à-dire que le développement où tu pars de rien, on t'a entendu sur, en tout cas dans le rap, on t'a entendu sur Internet et tu fais zéro stream, zéro vue YouTube, zéro rien, et sur un coup de cœur, on te signe. Je pense que dans le rap, vous me corrigez si je me trompe,
mais
c'est encore, c'est très rare. Après, si tu arrives à développer une espèce de fan base. Ouais. Enfin, si t'arrives, je sais pas, si on parle en concret et vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi, si t'arrives à commencer à streamer, si tu fais du 100 000 streams, quelque chose comme ça, tu tournes autour de 100 000 streams, t'as des vues YouTube qui sont assez intéressantes, qui sont assez conséquentes au fur et à mesure, je pense que là, tu vas commencer à attirer l'œil des maisons de disques. Et surtout, il faut qu'en fait, ils sentent, je pense, que tu parles à un public, même si c'est un public de niche, peu importe, mais au moins, tu parles à une audience et t'as déjà défini un univers assez clair. Mm-hmm. T'as peut-être l'audience,
ta communauté, parlais, quoi.
Le style visuel, ta communauté avec laquelle tu crées une interaction, soit t'es présent sur un réseau social en particulier. Faut déjà qu'on sente qu'il y a une dynamique qui est mise en route. Et à partir de ce moment-là, je pense que oui, la maison de 10 va apporter après sa force marketing. Tu auras plus de budget, tu auras de la promo, tu auras un peu plus de réseau, un peu plus de personnes autour de toi. Mais déjà, la base, faut la faire seule avec son équipe. Faut être staffé. C'est-à-dire que Avant de vouloir que quelqu'un te signe, il faut déjà que tu aies misé sur toi, peu importe les moyens que tu as mis, mais que surtout que tu aies créé une communauté assez forte, assez fidèle. Quand je dis assez forte, assez fidèle, je pense pas que ça soit tellement le chiffre. Bien sûr que le chiffre compte. Si tu as une communauté, je sais pas moi, de je sais pas, n'importe quoi, de 100 000 personnes, c'est pas comme si tu avais une communauté de 600 000 personnes. Mais si tu as 100 000 personnes qui sont vraiment intéressées par ta musique, qui réagissent à tes posts, qui font en sorte que ta musique prend de plus en plus, je pense que d'une certaine manière, ça va accroître ton exposition. Mais aussi parfois, ce côté, je dirais bouche à oreille. Tu sais, l'artiste qui a pas forcément.
En gros, tu peux percer avant d'être signé aussi.
C'est quand même assez rare, mais mine de rien, il y en a quand même qui arrivent à développer leur modèle. La plupart des artistes, ils ont, parce que quand on parle de signer, on parle de signer même en une distrib. Hein.
Ouais, ouais.
Donc, signer, enfin, vivre de ta musique avant de signer dans une structure, on peut l'avoir déjà vu, mais c'est assez rare en soi.
Quoi? Bah, non, t'as beaucoup de la belle indé, justement, pas forcément.
T'as des mecs qui.
On parle de signer même
en distrib.
En distrib.
Mais tu vois, par exemple, un mec comme Osiris Jacques, il est pas signé en distrib, il est sur distro.
Oui, mais il y en a
pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns.
C'est pour ça que je vous disais, c'est pas forcément. Parce que là, pour les
Rilas, c'était pas le cas d'ailleurs.
Si, Rilas aussi.
Ouais, mais finalement, c'est.
C'est quand même relativement rare, entre guillemets. En vrai, la raison, c'est que les gens, ils disent, ouais, les artistes, tu les signes une fois qu'ils ont, entre guillemets, déjà percé, parce qu'ils font 100 000 vues, 100 000 streams. Mais aujourd'hui, un mec qui fait 100 000 vues, 100 000 streams, dans le rap, il y en a plein. Et en fait, quand tu cherches un mec qui fait 100 000 vues, 100 000 streams, en vrai, il génère peut-être 500 euros de chiffre d'affaires sur un morceau. Ouais. Avec ça, tu payes même pas la prod, tu payes même pas le studio, etc. T'as rien avec ça, tu vois. En vrai, de vrai, l'objectif dans le rap, c'est quoi? C'est de passer peut-être de 100 000 streams à au moins 5 millions de streams. Ouais. Et du coup, en vrai, quand t'es à 100 000 streams, t'as fait peut-être 3% du chemin, tu vois. Ouais, donc en fait, avant, peut-être qu'ils prenaient de 0 à 100. Ouais. Maintenant, ils prennent peut-être de 5 pour te faire aller jusqu'à 100, il y a quand même 95% du taf encore à faire, tu vois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même une logique de se dire, la qualité, il y a plein de mecs qui rappent bien, qu'ils aient sorti un truc qui fasse un peu de vue ou qu'ils aient rien sorti. Et donc, quitte à choisir un mec qui rappe bien, autant aller vers un mec qui a déjà un peu testé le marché, entre guillemets, tu vois, et qui a déjà commencé à développer quelque chose. Et donc, c'est pour ça aussi que maintenant, tu signes quand t'as, entre guillemets, commencé à percer.
Est-ce que, on peut se dire clairement que les maisons disques aujourd'hui veulent moins prendre de risques, ce qui est totalement normal. Elles vont attendre que l'artiste se développe un petit peu, et à partir de là, le but pour elles, c'est de prendre moins de risques parce qu'elles vont investir énormément sur les artistes.
Mais je suis d'accord, mais faut pas oublier qu'il y a quand même, pour eux, un contre-coup de ça. Avant, quand j'allais voir un artiste qui était sur maquette, elle disait, vas-y, je suis aussi un artiste, les conditions, c'est ça. Et en gros, tu fermes ta gueule et t'es déjà content que je te permette de signer. Et donc, il y avait, en gros, c'était un truc de, vas-y, je suis premier à croire en toi, personne met de l'argent, je mets de l'argent. Tu vas signer à pas grand chose. Sauf que maintenant, qui vont sur des mecs qui a déjà une visibilité, ça fait qu'ils sont en général plusieurs à y aller au même moment. Ce qui crée aussi une certaine enchère. Une surenchère même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es un artiste en développement, ça peut t'arriver de le signer en licence, en coprod, en distrib, des types de contrats. Sur le papier, théoriquement, plus avantageux pour l'artiste, et parce que le mec a déjà fait un bout de chemin.
L'artiste possède plus souvent ses masters dans ce cas-là.
Parce qu'il a déjà commencé à taffer, qu'on dit, vas-y, t'as déjà réussi à aller de 0 à 10. Donc, pour ça, t'auras un meilleur contrat, mais c'est moi qui essaie de te faire passer de 10 à 100.
D'accord. Le rapport de force se rééquilibre en soi. C'est ça que tu veux dire,
pour Ouais. Et justement, je vous pose la question, justement, à vous. Est-ce que, aujourd'hui, faut-il signer en maison disque pour percer?
Non, justement, en fait, là, on parlait justement de modèle économique, tout ça, qui peuvent s'offrir à plusieurs artistes. Mais en réalité, ça répond pas justement à cette question-là. En soi, ils ont. Est-ce qu'ils ont besoin d'être signés pour percer? Je dirais que non. Tu vois, enfin moi peut-être à une époque, c'était hyper important, il y avait ce côté où il fallait passer par les maisons de disques pour avoir effectivement tous ces contacts là, toutes ces informations au niveau marketing, toute cette structure.
Maintenant,
exactement, maintenant il y a plein de labels indépendants qui ont besoin des maisons de disques pour être distribués uniquement. Et du coup qui se suffisent à eux-mêmes, en tout cas, pour pouvoir parler de communication, stratégie marketing, ou pour pouvoir tout simplement essayer de faire percer l'artiste, tu vois. Donc non, aujourd'hui, c'est plus le passage obligatoire. Peut-être à une certaine époque, c'était obligatoire, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout.
Mais ça reste une signature, la distrib. Nous, c'est au début, quand tu as défini les termes, on a mis la distrib dedans. C'est-à-dire que là, on devrait parler des artistes qui sont sur distro
total.
Et là, il y en a vraiment pas beaucoup. Enfin, il y en a peu qui restent dessus.
Alors, du coup, ceux qui sont en distrib sèche,
même une distrib sèche,
c'est injecté, on a misé sur toi, on a risqué, et t'es un chef de projet, il y a un budget qui est mis sur toi.
Est-ce
qu'un groupe comme PNL, du coup, quand ils disent qu'ils sont en indé, c'est de la vraie indé?
Ils sont en distrib. Ils ont essayé de sortir, par exemple, PNL, parfait.
Ils considèrent pas ça comme un indépendant.
Non, pour moi, ils sont en indépendant, mais signés avec
une grosse structure.
Ouais, mais
justement,
non,
est-ce qu'on peut peut-être définir pour l'audience?
Oui. Pour moi, ça prend pas parce qu'en réalité, une distribution, d'accord, ils distribuent. Mais en fait, pour percer, il faut tout ce qui est côté marketing, tout ce qui est toute la stratégie que eux font eux-mêmes en fait. En réalité, eux là, ils ont besoin du label pour être uniquement distribués dans les points de vente, dans les grandes surfaces, dans les la Fnac, etc. Tu vois. Mais c'est pas ça qui fait qu'ils vont percer.
La licence et
la signature en licence, l'artiste, oui. Tu vois.
Attendez deux secondes. Je pense que pour l'audience, ça peut être plus clair pour eux de synthétiser un petit peu les trois types de contrats histoire qu'ils puissent comprendre.
On va commencer par le contrat
artiste.
Artiste, plus classique.
Artiste, c'est toi, t'es un artiste, tu vas être produit par un label, qu'il soit major ou maison de disque, et ce label va tout investir, va faire tout le taf qui est, donc il va faire ta direction artistique, il va faire les clips, il va faire son projet, l'administratif, le marketing, il va tout faire, et toi, ton taf, entre guillemets, c'est d'aller en studio et d'interpréter tes musiques.
T'es salarié dans ce cas.
Et donc dans ce cas, t'es salarié de la maison de disque, tu vas avoir un salaire à chaque fois que tu vas enregistrer un morceau, et en plus de ça, t'auras un pourcentage du chiffre d'affaires, les fameux 12%, 13%, 14%, 15% que tu vas recevoir de la part de la maison de disque. Mais par contre, c'est de l'argent que tu prends dans ta poche, que tu ne réinvestis pas. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est vraiment, tu viens, je te paye le studio, je te paye tout, tu rappes, je sors le truc, et dans ces cas-là, tu reçois un pourcentage que tu as généré. Ça, c'est le contrat d'artiste.
Juste, j'ajoute une chose. Et t'es pas propriétaire de tes masters.
Ouais.
Ça, c'est
en fait, ça aussi. C'était salarié.
T'as un contrat qui te lie. T'as un contrat d'artiste qui te lie à la major. Et t'es pas propriétaire de tes masters.
Qui a un contrat de travail. Et effectivement, pendant tout le temps où le label va exploiter tes masters, donc pendant toute sa vie quasiment, il va te payer un pourcentage sur le chiffre d'affaires parce qu'il a utilisé tes masters. Premier type de contrat. Deuxième type de contrat, les contrats de licence. C'est toi qui a ton propre label. D'accord? Qui va enregistrer les albums, donc qui va enregistrer les masters. Donc c'est toi qui va payer le studio, les compositeurs, qui va payer une partie des clips et qui va payer la cover, par exemple chez Fifou, et qui à la fin va donner le master à la maison disque, qui va le licencier et qui va du coup faire le travail d'exploitation, de marketing et de promotion. Et c'est eux qui mettent l'argent pour le promotion et le marketing. Après, c'est à toi de faire l'album avec le budget qu'ils t'ont donné en général au début. Et dans ces cas-là, pour faire un truc très basique, tu vas avoir toi 30% et eux 70%. Par contre, le master t'appartient. Et au bout d'un certain temps, ils vont te rendre l'exploitation du master. C'est-à-dire qu'en bout, en général, au bout de 7 ans, tu te retrouves avec tu peux le remettre en distrib parce que du coup, eux, ils le licencient plus. Ils payent plus le marketing et tout, ça t'appartient à toi. Donc ça te permet d'être en maison de disque, d'avoir l'impact de la maison de disque et de continuer à être propriétaire de ton master. Et c'est un type de contrat qui est très populaire dans le rap parce que ça permet aussi, quand t'as une équipe de producteurs indépendants autour de toi, que eux, ils puissent être rémunérés, ce qui est beaucoup moins le cas en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, c'est la maison de disque qui fait tout.
Tout est centralisé.
Il n'y a rien pour les équipes autour, tu vois. Qu'en licence, en général, c'est tes producteurs, c'est tes gars. Toi, t'es artiste. Donc, en gros, sur les 30%, peut-être tu vas prendre 12% et eux, ils vont prendre 18%. Eux, ils vont investir avec ça. Toi, tu vas prendre ton argent. Et après, la maison de disque fait le reste. Dernier type de contrat dont on parle souvent, c'est la distribution. La maison de disque te dit, OK, tu veux faire un album. Moi, je vais te donner une avance sur les revenus de ton album. Et quand tu auras fini ton album, je vais le prendre, je vais le mettre en streaming et dans les magasins. Je vais faire un petit peu de travail quand même, c'est d'essayer de le faire entrer en playlist, etc. Mais par contre, c'est toi qui fais tout. Donc, ils vont donner un budget pour tout faire. Tu vas récupérer facilement 70% du chiffre d'affaires. Par contre, tu payes tout de A à Z, censé tout faire toi-même.
Tu emmènes tout Cléo, en fait.
Ouais,
tout
Cléo,
et donc, du coup,
exemple, Jul.
Bah, du coup, après, Jul, il est un peu en distrib amélioré, mais typiquement, tu vas avoir en distrib, tu vas avoir Jadinaz, ils sont en distrib. Tu vas avoir PNL, ils sont en distrib. Tu vas avoir Freeze Corleone qui est en distrib.
Necfeu maintenant, c'est ça.
Necfeu qui, je crois, qui est passé en distrib, je suis même pas sûr.
Alpha One.
Alpha One qui est en distrib, Rimka qui est en distrib. Tu vas avoir en licence, tu vas avoir, enfin, qui était ou qui ont sorti des albums récemment en distrib. T'as Niska qui est en licence, t'as Niska, SCH je crois qu'il passe en artiste, t'as Niska, t'as Maes par exemple, tu vas avoir Val qui est en licence maintenant qui est passé en distrib.
Booba aussi qui est en licence je crois.
Booba qui était lui avait un contrat particulier.
Ouais, distrib.
Ouais, distrib.
Ouais.
Je suis pas sûr.
Et en artiste c'est plus rare, tu vas avoir des artistes comme Gambi qui est en artiste. Tu vas avoir Kobalade au début de sa carrière, qui était un artiste avant de partir en coproduction, qui est un type de contrat. Et donc, du coup, la question que soulève Céline, c'est est-ce qu'on peut considérer de la même manière un mec qui est signé en distrib, dont on donne un budget et il se débrouille avec, en termes d'apport de la maison disque, est-ce qu'on peut le comparer à un mec qui est signé en artiste, qui prend peut-être que 12%, mais qui fait que chanter, entre guillemets, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que moi, je considère que si tu signes
en distrib, t'as quand même signé quelque part, tu vois, c'est pas anodin.
Comme tu viens de le dire,
t'as quand même un soutien
de la budget.
Qu'est-ce
que tu voulais dire, toi, Céline ?
Non, c'est que comme là, tu venais de bien d'énumérer tout ce que comportait chaque catégorie, voilà, que ce soit l'artiste ou la licence, t'as des personnes qui sont là pour t'aider à développer vraiment ton marketing, ta communication, qui vont t'aider dans les clips, aller chercher les réalisateurs, à les produire, à les faire, en fait.
T'as un staff.
T'as un staff et c'est ça qui va faire aussi toute la carrière de l'artiste en réalité, tu vois. Quand t'es en distrib, c'est toi tout seul. Donc c'est toi qui va gérer ton image, qui va gérer tes clips, ton planning, ton retour planning de quand est-ce que tu veux sortir les choses, ta cover, ton budget en fait. Parce qu'en vrai, même si on te donne une avance, il faut que tu gères ton budget, tu vois.
Je suis d'accord.
Et ça, c'est hyper important pour le développement de l'artiste.
Mais Céline, est-ce qu'on n'est pas déjà, et je t'interromps pas, mais est-ce qu'on n'est pas déjà justement à l'étape un peu d'après, je pense, si je me suis bien, c'est que nous on parlait un peu des artistes qui en soi ne sont pas signés du tout, et quand tu commences, comment est-ce que tu fais pour accéder à la signature en maison de disque, peu importe si en distrib ou couvre caisse, tu vois.
Percer.
Oui, est-ce que si, voilà, c'est ça en fait le truc. C'est que à partir du moment qu'il y a une signature, il y a la relation avec la maison de disque. Moi, je te parle d'avant.
Pour moi, à partir du moment où tu signes, même on distrib, ils ont un impact quand même.
Ouais, c'est ça.
Ils t'ont dit le budget.
Je suis d'accord avec toi.
Est-ce que tu avais les 20 ou 50 millions
Excuse-nous.
Ouais. Là, tu parlais de signature, mais à partir du moment, moi, c'est. Voilà, le cadre, il est simple. C'est à partir du moment qu'on signe avec une maison de disque, que ce soit en artiste, en licence ou en distrib, pour moi, il y a une relation directe où on se dit, OK, est-ce que l'artiste a percé ou pas ? Alors, effectivement, tu donnais un très bon exemple avec, en disant que les artistes en distribution étaient seuls. Alors, ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a aussi les maisons de disques qui vont s'impliquer dans le travail de l'artiste et qui vont l'aider à se développer. Moi, je parle vraiment au départ, voilà. Tu es un artiste.
Tu es un agrégateur.
Tu as TuneCore, tu as DistroKid ou quoi qu'est-ce. Et ton but, c'est voilà, est-ce que tu peux percer et rester complètement indépendant comme ça ?
C'est ça la question.
Est-ce que tu peux en vivre en étant totalement indépendant des structures distrib
Non, parce que moi, je parlais de signature. En fait, je pensais qu'on est très clair. En fait, signature, même la distribution, c'est une signature.
Non, mais t'es obligé de passer à un moment donné par la distrib.
Mais ça veut dire que, enfin, moi déjà, il y a quelque chose qui.
Donc, la maison de disque est toujours importante.
En fait, il y a quelque chose qui me perturbe du coup dans tout ça. Parce qu'en fait, du coup, il y a des artistes sur lesquels on a le fantasme de l'indépendance.
Voilà.
On est en mode, ils sont indépendants. Il y en a très peu des comme eux, etc. Machin. Sauf que là, on est en train de dire que des artistes comme PNL, comme Jul, etc., ne sont pas indépendants au final. C'est ça qu'on
entend.
Ils sont indépendants,
mais ils ont des partenaires. En quelque sorte, ils ont signé en maison 10.
Pour moi, en plus, selon les artistes, en fait, ça dépend comment on définit.
C'est pour ça que c'est compliqué, là.
Quand on vient, t'as raison.
Il y a des gros indépendants, il y a des petits indépendants.
Que le propriétaire de ton master, c'est toi. Mais dans ce cas-là, le propriétaire de ton master, tu peux être en licence. C'est-à-dire que, par exemple, Niska, qui bosse avec Millennium, Niska fait un taf de ouf, Eminem fait un taf de ouf, il peut se considérer comme indépendant, parce que c'est lui qui se produit lui-même, mais il laisse une part du travail à la maison de disque. Après, en général, ce qu'on a tendance à dire, c'est quand le mec est en distrib, comme c'est lui qui fait la majorité du taf et qui a la majorité des revenus, on a tendance à dire qu'il est indépendant. Mais derrière la distrib, il y a aussi plein de réalités différentes. Par exemple, si t'es en distribution améliorée chez Hot Points, ils vont gérer le market et la promo. Ça ressemble quasiment à une licence. Et par exemple, un mec comme Jul, je pense qu'il y a un énorme apport de la part de Hot Points sur le taf qui est fait autour de lui, parce que c'est une industrie énorme, tu vois. Et que PNL, en l'occurrence, qui sont eux aussi... bon exemple, Jul PNL. Ils sont tous chez Believe. Ouais. Sauf que Jul, il est chez Hot Points, la partie distrib améliorée, où ils donnent plus de services. Là où PNL sont sur la partie distrib sèche, où en gros, c'est vraiment ce qu'on a dit. Tu donnes
le truc
et
vas-y.
Je livre et les mecs touchent à rien, entre guillemets, tu vois. Et donc, du coup... En vrai, ils ont quasiment le même type de contrat, mais il y a des réalités différentes derrière. Et je pense que PNL, ils sont dans un truc de dire « nous, on est indépendants », mais il y a une réalité, c'est qu'à un moment, ils bossent avec Believe, qui est quasiment une major, qui est cotée en bourse, qui vaut des milliards. Et en vrai, à un moment, ils s'appuient sur la puissance de la maison disque et ils sont pas complètement indépendant, mais en distrib.
Non, mais parce que, excuse-moi, juste, parce que, en fait, au bout d'un moment, t'es obligé.
Enfin, en fait, t'es quasiment obligé.
En fait, pour moi, tout seul, est-ce que tu pourrais te distribuer dans une grande surface ? Impossible.
Je pense aussi que c'est une question à laquelle on peut répondre sur ce truc de distrib, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par par ces grosses entités pour être distribué. Pourquoi est-ce qu'on peut pas se distribuer tout seul aussi pour que les gens puissent comprendre aussi, tu vois.
Mais moi, juste.
Ouais, non, mais ça, je pense que c'est important de définir ça. En fait, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui est en, qui pour le coup est en, en vraie indépendance et de les limites que ça peut avoir. Tu vas avoir par exemple Osiris Jack, qui est, tu le vois sur ses réseaux et tout, il est en indépendance. Je crois qu'il distribue sur DistroKid et il met ses CD en vente sur son site internet avec DeFi, je crois, c'est genre le fameux official shop, etc. Et du coup, tu peux acheter ses CD et tu peux le télécharger et tu peux l'écouter sur DistroKid. Ça a plusieurs impacts. Premier impact qui est tout con, t'as pas, tu passes par DistroKid, t'as pas de certif. Et t'as pas de certif si tu passes par DistroKid et si tu vends tes CD physiques avec un seul shop, en l'occurrence le tien, t'as pas non plus de certif. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, Osiris Jack, il peut faire 58 millions de streams, il sera pas disque d'or.
D'accord.
Parce que il est pas certifié. Donc déjà, c'est un impact où en gros, tu sors des, tu sors de l'industrie.
Des réseaux classiques, en fait.
Des réseaux classiques. Donc voilà, tu sors des réseaux. Donc ça, c'est le premier impact. Deuxième impact, et qui est non négligeable, t'es moins bien rémunéré quand t'es distribué par DistroKid et TuneCore que quand tu passes par une major. Parce que eux, ils négocient. Donc c'est-à-dire que la rémunération au million de streams, c'est pas la même. Donc tu passes en indé, mais tu vas gagner limite moins d'argent que si tu passais par une major qui te donnait, qui te prendrait 20%. Mmh. Tu vois, parce qu'en gros, il y a ce truc-là. Et le troisième impact, c'est que le problème de sortir sur ton propre truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'avance sur DistroKid.
Ouais.
Donc tu sors un morceau, tu sais, entre le moment où tu sors et le moment où la plateforme de streaming elle paye, il y a peut-être 3 mois, tu vois.
Ouais.
Donc ça veut dire qu'en gros, les dépenses, par contre, dans la musique, tu les as en amont. Faut que tu payes le clip, le studio, les compositeurs et tout. Donc ça veut dire que tu as tout dépensé avant. Et l'argent, il va mettre des mois à tomber, tu vois. Donc, ça veut dire que l'avantage étant distrib, c'est que le gars, il arrive, il dit, je te fais une avance sur ce que ça va générer dès le début. Donc, cet argent-là, tu l'utilises pour bosser. Que si t'es en mode DistroKid, ok, tu vas tuer ton argent au fur et à mesure, t'auras pas d'avance à recouper. Mais avant que l'argent, il arrive, c'est qu'il va se passer 6-7 mois. Donc, tu vas être à vide. Tu vas mettre ton argent perso pendant 6-7 mois avant de recouper, tu vois. Enfin, avant de pouvoir rembourser déjà ce que t'as investi, puis prendre du bénéf. Et le dernier point qui est aussi un peu important, c'est pour les magasins.
Voilà, ouais.
C'est une galère de sortir en magasin. C'était pas. Tu peux aller voir certains magasins.
Parce qu'il y a des chemins, voilà.
Ouais, mais c'est un bourbier. C'est quasiment infaisable. Au physique.
Et puis c'est des négociations qui sont déjà entre eux, entre maisons.
Même si cet impact-là, maintenant, dans le rap, on vend de moins en moins en magasin. On fait beaucoup de physique uniquement sur le site. Donc en vrai, aujourd'hui, les gens, ils veulent être juste sur Amazon et Fnac.com.
Ouais.
Juste pour pouvoir certifier leur vente D2C.
Ouais.
Tu vois. Et donc, et le dernier point, donc effectivement, c'est les magasins, c'est une galère, c'était tout seul. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence sur PNL, en vrai, parce que eux, c'est des vendeurs en magasin.
Ouais.
Et le dernier point aussi, c'est que quand t'es avec une, avec un distributeur, tu rentres plus facilement en playlist, en stream, parce que eux, ils parlent directement à la plateforme de stream, en disant, ouais, est-ce que tu peux placer ce mec-là? Il sort. Et ça, c'est les, en gros, l'avance, la certification, la meilleure rémunération, les playlists et les magasins, c'est les 5 raisons qui fait que c'est quasiment intenable d'être en full indépendance, en vraie indépendance, comme on appelle l'indépendance, mais c'est réservé à une minorité de gens, et en général, ceux qui font ça, ils le font pour des raisons purement idéologiques.
Oui.
C'est-à-dire que je refuse de rentrer dans le truc, donc je suis prêt à perdre, parce qu'en fait, tu perds. C'est 5 raisons qui font que tu perds, mais tu le fais pour ces raisons-là. Et mais par contre, je rebondis là-dessus, en vrai, quand t'es en distrib, à ce moment où c'est toi qui prends toutes les décisions, on peut considérer que t'es indépendant, en vrai. C'est ouais, ça, c'est ce qui joue.
C'est la question
t'es indépendant.
Ben, en fait, c'est ça, parce que quand t'as une boîte, finalement, tu peux avoir des partenaires qui peuvent t'aider à faire des choses.
Ouais.
Je sais pas, dans un autre domaine, tu fais des t-shirts, tu vas travailler avec une usine.
Ouais, mais t'es indépendant quand même.
T'es indépendant quand même. C'est pour ça que finalement, être signé en distrib, en maison de disque, on peut considérer que t'es quand même un indépendant. Mais moi, j'aimerais revenir sur le contrat d'artiste, qui est un contrat qui est assez peu populaire dans le rap, finalement, parce que à partir du moment que tu signes, on prend tous tes masters et tu touches un pourcentage minime. Mais il y a un sujet intéressant que Big Flo avait soulevé dans une autre émission qui disait, nous, on a accepté de signer en artiste et toucher peu parce qu'on se disait qu'on commençait et qu'on avait assez peu finalement d'audience et que la maison de disques allait nous aider à tout bâtir. Par contre, ce qu'on va faire, c'est miser sur les concerts et devenir le plus mainstream possible. Donc, ça a été vraiment une stratégie qu'ils ont mis en place sur le long terme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce format-là, enfin ce contrat-là d'artiste, c'est un contrat qui finalement est sous-estimé par la plupart des rappeurs aujourd'hui, parce que on parle beaucoup d'indépendance, etc. Mais est-ce que finalement la plupart des rappeurs ne devraient pas aller dans cette direction-là?
Peut-être au début de la carrière, en réalité, c'est pas mauvais. En fait, il n'y a pas de mauvais contrat. En fait, tout dépend de l'artiste, son ADN, etc. Mais ce que font beaucoup aussi d'artistes, c'est qu'ils commencent parfois, que ce soit en licence ou en artiste, et puis en fonction de leur contrat, de combien d'albums ils ont signé avec le label, ils savent que par exemple au bout de 3-4 albums, avec 3 albums, je vais renégocier mon contrat et puis à ce moment-là je repasserai en licence. Ou sinon à ce moment-là je me mettrai totalement en distrib. C'est ce que font aussi la plupart des artistes quand ils commencent. Et puis plus ils vont grandir et puis plus ils vont avoir de notoriété, plus ça va fonctionner, plus ils voudront être de plus en plus en indépendant, et ça c'est normal.
Et ouais, et parce qu'il y a un élément qu'on oublie, c'est qu'en fait on parle de la distrib parce qu'on regarde PNL et Jul,
ouais,
qui peuvent prendre 5, 6, 7 millions d'avance par album, tu vois. Mais il y a une réalité quand t'arrives et que ton premier album, en vrai, il va générer, on va dire, il va générer 50 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà beaucoup. Hein.
Ouais.
Donc si tu penses, et s'il pense qu'il va générer 50 000 euros de chiffre d'affaires, donc le distributeur, quand il arrive, il va te voir, il dit, OK, sur ces 50 000, je vais reverser 70%, donc 35 000.
Ouais.
Donc combien je lui fais d'avance? 35 000.
Ouais.
Tu vas pas lui donner plus que ce qu'il va générer.
Ouais.
Donc
ouais,
il va arriver à dire, je mets 35 000.
Ouais.
Sauf que toi, 35 000, il y a toute une équipe qui doit bosser dessus, etc. Tu dois payer les gens, tu dois payer les compos, les studios. Et en fait, au début de carrière, déjà, avoir une avance de 35 000, c'est pas évident. C'est déjà un truc où t'es un minimum déjà développé. Donc, qui dit minimum développé, il y a déjà quelqu'un qui a mis de l'argent. Donc, en réalité, la force d'un contrat d'artiste, c'est comme le mec dessus, il récupère une énorme partie, il prend des risques financiers. Et c'est ce qu'ils disent Big Foley, c'est qu'en fait, il y a un truc où le contrat d'artiste, en début, en fait, il y a deux moments où il est, en fait, il y a deux types d'artistes qui le récupèrent. C'est soit les artistes qui sont trop petits pour signer un artiste, parce que les mecs sont pas prêts à prendre des risques, donc vas-y, je préfère te faire une avance de 10, 20 000 balles et tu te débrouilles avec, parce que moi, pour 20 000 euros, je peux pas faire un album. Ou alors, c'est les très gros qui ont fait un truc, ont déjà une économie qui fait qu'ils signeront pas en dessous de même 300 000 balles.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
T'as de quoi bosser. Donc ils disent, vas-y, c'est bon, j'ai 300 000 balles, je vais faire mon album. Mais il y a toute une partie d'artistes où en vrai, ils ne leur proposent pas un contrat d'artiste, ils sont incapables d'investir avec l'argent de la distrib. Parce qu'en fait, en distrib, le mec en face, il ne prend pas trop de risques. Il touche 30%, voire 25%, voire même 20% seulement. Tu gardes tout le reste. Donc à un moment, ce n'est pas à lui de prendre des risques inconsidérés. Que dans un contrat d'artiste, le mec, il se dit, écoute, je vais gagner 88% sur lui. Donc au pire, sur le deuxième album, je vais me refaire ce que j'ai perdu sur le premier, tu vois.
Ouais.
Donc il y a aussi une question d'investissement en distrib, on donne ce que tu vaux.
Ouais.
Et des fois, c'est pas suffisant pour faire un album.
Ouais.
Et donc là, c'est là que ça devient intéressant d'avoir un mec qui peut proposer un contrat d'artiste. Mais c'est super rare, parce que aussi les maisons de disques, elles essayent de se dire, je vais proposer des contrats à des gens qui valent déjà quelque chose.
Ouais.
Et ceux qui valent déjà quelque chose, ils veulent une distrib.
Voilà.
Donc tu vois, c'est un peu relou.
Ouais, c'est ça.
mais justement, tu parlais des distribs et tu as parlé aussi d'avance.
Ouais.
Est-ce que justement, ce format de distribution améliorée, c'est un phénomène qui est de plus en plus fréquent dans le rap. Et est-ce que c'est un format qui correspond finalement aux problématiques des artistes qui ont justement ce que tu disais, qui sont dans un entre-deux?
Bah alors, la distrib améliorée.
Peut-être expliquer aussi ce que c'est la distrib améliorée.
La distrib améliorée, c'est qu'on prend plus de points, on donne plus de services. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de te mettre juste, on va te rajouter des choses. Par exemple, on va te rajouter un chef de projet, du promo, du market. Et la distrib améliorée, il y a deux problématiques. C'est que ça reste une distrib. Donc même s'ils augmentent le taux, ils vont pas prendre des risques inconsidérés, donc on va donner ce que tu vaux, et des fois ce que tu vaux ça suffit pas pour bosser. Et le deuxième problème de la distrib améliorée, c'est qu'en vrai de vrai, comme c'est quand même un contrat où ils sont pas producteurs et ils ont un taux qui est quand même relativement réduit par rapport à un contrat d'artiste ou une licence, en vrai de vrai, les maisons de disques qui proposent ce type de contrat, ils veulent pas faire des distrib améliorés trop bien. Typiquement une distrib améliorée, t'as personne qui par exemple va te faire ton admin, qui est une galère pour les artistes. C'est d'aller faire les clearances, payer les compos, faire les redevances, les cachets, etc. Il y a aucune distrib améliorée qui le fait parce qu'ils disent, attends, ça c'est réservé à mes contrats artistes ou coproduction.
Ça prend du temps.
Donc tu vois, ils sont dans un truc de se dire, les meilleurs services, ils sont dans mes anciens contrats. Parce que si je te donne tout en distrib améliorée, mais personne fait une licence et personne fait un contrat d'artiste.
Non, c'est clair.
Donc ça pose une problématique, tu vois.
Ouais. Et c'est pas rentable pour eux, en fait.
Et vous, justement, vous pensez quoi de ce contrat d'artiste? Est-ce que vous pensez qu'il a encore beaucoup de sens aujourd'hui?
Contrat d'artiste, moi, en vérité, je vais pas m'exprimer là-dessus parce que je maîtrise pas assez le sujet de contrat d'artiste. Je sais juste que d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que, en fait, c'est même le message envoyé par les artistes du coup qui ont réussi qui donne une image assez négative de ce contrat-là, tu vois, donc qui fait peur aux nouveaux qui arrivent, tu vois. Et je te le dis, moi-même qui maîtrise pas assez le sujet, j'ai l'impression que c'est le contrat à éviter. Tu vois, c'est vraiment le. Si j'étais rappeur, ce contrat, je ne le prendrais pas. Tu vois.
On en a fait dans l'inconscient le contrat à éviter, alors que, comme elle disait Céline.
Non, il n'y a pas de mauvais bon contrat.
Comme a bien précisé Flo et comme a dit Céline, c'est vrai qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais contrat. J'ai envie de te dire, au début, tu es un artiste qui est dans ta chambre ou dans ton quartier ou peu importe où. T'as pas d'argent, en vrai de vrai. Quand tu fais du rap, l'argent va venir d'où ? Soit t'es économisé, soit c'est l'argent du dehors, il n'y a pas un milliard de solutions. Ou soit t'es fils d'eux, non mais viens, on va par mille chemins, en vrai de vrai. La plupart des producteurs qui viennent de certains endroits, soit ils ont déjà eu des activités entrepreneuriales à côté, soit t'as un héritage, soit c'est l'argent du dehors. Donc ça veut dire que comment tu fais pour te financer, que ça soit un mec de ta cité, un grand de ta cité, ou que ça soit une maison de disques, t'as de l'argent pour pouvoir te développer, parce que l'argent ne tombe pas du ciel, ça coûte cher en fait d'enregistrer, on se rend pas compte, parce que même tu commences à aller dans un studio pour enregistrer ton son, pour le mixer, si tu veux le masteriser, tu le mets sur les plateformes de streaming, après tu veux faire un petit visuel, comme disait Flo, il y a la petite pochette que tu veux faire aussi, tu veux un peu payer ta sponsor YouTube, tu veux être un peu sur Snapchat, et tout ça, c'est pour ça que moi je parle de l'étape avant signer, avant de trucs, pour arriver aux portes des distributeurs ou des majors, faut déjà investir.
Il faut de l'argent, ouais.
C'est 10 000, 15 000 euros, 20 000 euros, après tout dépend de l'artiste, ouais, tout dépend de trucs, et ça, c'est un coup, par exemple, demain tu veux développer une chanteuse comme Aya Nakamura, ça va pas être le même argent que un artiste tu fais de la trap ou de la drill du bendo, ça va pas être le même type de clip, bien sûr que oui, tu vois, parce que ça coûte pas le même argent, c'est pas la même image, donc à un moment donné il faut avoir les reins, donc c'est vrai que que le contrat d'artiste faut quand même le regarder avant que tu le signes, mais j'ai envie de dire si c'est ça ou rien. Vas-y, parce que de toute façon, ça va peut-être pas se débloquer. Et je voulais rajouter un truc, Céline. C'est bien, après, ils distribuent, vive les distribs, trucs, machin, nanana, on donne de l'argent, faut le ramener, oui, je suis indépendant, tout ça. Et on a cité des bons exemples d'indépendants, des PNL, des Jules, des Jaja et Dinas qui se démerdent grave bien, qui ont déjà leur flux, qui ont déjà leurs idées. Mais il y a beaucoup aussi d'indés qui sont en distrib, qui se disent, enfin, on est en indé, on a notre label, on part sur une distrib, un contrat distrib, parce qu'on est, en fait, on est 5-6 dans l'équipe, en comptant l'artiste, tout le monde veut manger, finalement, ils prennent l'avance, ils en font rien, ils savent pas bosser, ils sont pas staffés. En fait, le
fait d'avoir une vraie mentale d'entrepreneur,
en fait, parfois le logique contrat, de long terme. Parfois, aussi. Le contrat de distrib
n'est pas adapté.
N'arrange plus le producteur, enfin, les producteurs et les équipes que les artistes eux-mêmes dans leur développement.
Parce que la plupart des artistes sont signés en vrai de vrai, on parle d'indépendance, mais là, il y a beaucoup d'artistes
qui sont signés dans un label indépendant
qui lui signe. Et en général, lui, il est en artiste avec le label indépendant, tu vois.
Quand tu vois un artiste et tu vois 4 ou 5 producteurs, même dire 3 producteurs, c'est dire beaucoup. Et surtout si tu fais un rap, je dirais pas de street, mais qui va te plafonner en termes de stream.
En général, ça sent pas
un
bon.
Un artiste, un manager, vous êtes 5 à devoir grailler sur un artiste qui a peut-être entre 20 et 25 ans. Ça va être compliqué, hein. Surtout si en soi, tu fais un disque d'or, t'es en distrib,
mais pas d'argent.
Vous êtes combien dedans? Et attention, je te parle, on parle sur la prod, et tu tournes pas en radio, et tu fais pas de concert, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont vers les showcases. Argent facile, on prend même 3 000, 4 000 euros par date, ça commence comme ça, on fait un ou deux morceaux qui marchent.
Si je rebondissais surtout sur ce contrat d'artiste, et que surtout aussi, c'est que c'est pas une fin en soi pour toute ta carrière. Tu vois, j'ai l'impression que oui, effectivement, il fait peur et tout, mais en réalité, c'est pas défini genre pour le restant de ta vie. C'est à toi aussi, justement, de bien regarder ton contrat, de pas signer pour 6 albums, tu vois, de signer pour 2 albums, 3 max, mais il y a encore, tu vois. Mais en fait, c'est en fonction de ce que tu vas signer en ton contrat. C'est pas juste le contrat d'artiste qui est genre, oh mon Dieu, il faut absolument pas le prendre. C'est ton contrat, ce qui est écrit dedans, surtout, qui va faire que est-ce que c'est un bon contrat ou non. Que ce soit artiste, que ce soit en licence, que ce soit en distrib.
Et puis aussi cette logique de la priorité.
En fait, surtout ça, c'est que du coup, ça vous bien alerter, c'est que juste, lis bien ton contrat. Tu vois, lis bien ton contrat, les détails.
Tu vois, quand t'es un mec qui est
en train de
lire, c'est vrai qu'il faut lire, mais c'est compliqué.
Non, mais justement, c'est à nous justement de préciser, tu vois, c'est le conseil que je donnerais en fait. C'est pas une question juste de artiste, licence, distrib, c'est juste regarde bien ce qui est écrit dedans.
Les conditions.
Et les conditions. Exactement.
Parce que. Et un bon contrat d'artiste à côté.
Exactement, parce que comme je disais, tu peux avoir signé un artiste 2 albums, au bout des 2 albums tu vas cartonner, du coup effectivement le travail il aura été fait et tout, donc c'est super, tu vas décider de renégocier ton contrat, tu seras dans tous tes droits, et du coup là peut-être que tu iras plutôt vers une licence, ou plutôt je pense vers une distrib à ce moment-là, mais du coup tu auras fait ton chemin quoi, et au final ton premier contrat il t'aura aidé à pouvoir aller vers ce contrat de distrib, et il n'y a rien de mal en soi, tu vois, en soi c'est juste une bonne stratégie.
Et puis aussi il y a cette logique
si tu ne peux pas investir avant,
si tu es en contrat d'artiste pour la maison disque, vu que tu rapportes le plus d'argent, bah, tu vas être une priorité aussi.
Exactement.
Et il y a un autre élément qu'on oublie, c'est que contrat d'artiste, tu touches en chiffre d'affaires. Hein. Ouais. Demain, l'album, il rapporte 100 000 euros, ils ont dépensé 120 000 euros. Mmh. Toi, t'as 12%, tu prends tes 12 000 balles, hein. Mmh. Même si l'album, il en perd de 20 000, tu vois.
Okay.
Donc, c'est ça qui est aussi important. C'est qu'en fait, on dit, ouais, c'est 12%, c'est pas beaucoup. Mais tu touches, tu touches le chiffre d'affaires. Ah, c'est-à-dire que c'est demain, ils investissent à toute patate sur toi, c'est pas ton problème, tu vois.
Okay.
Et c'est aussi pour ça qu'il y a des artistes qui aujourd'hui sont encore en artiste. Tu prenais l'exemple de Aya. Aya, elle est en artiste. Mais Aya, ça doit coûter trop cher.
Ouais.
Entre les clips, la promo. Parce que Aya, tu fais les télés. Donc, déjà, quand tu fais les télés, quand tu ramènes tout le monde en promo, tu ramènes des danseurs, tout ce que tu veux, ça c'est eux qui doivent payer. Quand tu fais Aya, tu dois aller prendre ta campagne Énergie, parce que Énergie veut de l'argent, Skyrock veut de l'argent, lui veut de l'argent. C'est des montants faramineux. Et elle, peu importe ce qu'ils ont dépensé, hein.
Ouais.
À la fin, elle a son truc, tu vois.
Ouais.
Et c'est des gros investissements à mettre en face. Et c'est un exemple concret, c'est Koba, elle a signé en artiste. Mm-hmm. À un moment où les gens signaient plus en artiste. C'est quand il a signé en artiste, chez DFGM, et ils le disent même, ouais, nous on est venus parce qu'on voulait développer dans les meilleures conditions possibles. Le taf qui a été fait sur le premier album de Koba,
ouais,
c'était un truc de fou. Ouais. En termes d'image, en termes
de. Ça m'a permis de passer un step.
Trop stylé. Et après, derrière, d'un seul coup, tu vois, il y a son logo sur les trucs. C'est-à-dire que les albums d'après sont partis en coprod. En mode, ils ont renégocié, vas-y, au début, on vous a tout donné, maintenant on fait à deux. Mais au début, il était réfléchi, comme Big Fioli, qui disent, vas-y, nous on est d'accord de donner plus au début, parce que derrière, on va manger plus là, plus là, plus là. Donc c'est vraiment le type de contrat. Il n'y a pas une vérité. Ça dépend de qui t'es, de ce que t'as, des conditions que tu peux avoir, de l'équipe qui est autour de toi. Ça dépend de plein de choses. Mm-hmm. Et il faut aller voir au-delà du nom du contrat. Et la distrib, il y a une réalité par contre, c'est que quand tu arrives à être très gros, en général, la distrib, c'est ce qui est plus intéressant. Mais parce que
là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire peur sur la distrib, du coup.
Oui,
parce que
chaque artiste a son histoire. Chaque
en fait, c'est du cas par cas.
Et
c'est
du cas par cas.
Du coup, là, on est en train un petit peu d'inverser le truc, mais effectivement, la distrib reste quand même un très beau contrat si tu as une équipe, effectivement, derrière, qui fait en sorte de tenir les murs, tu vois, de pouvoir aller jusqu'au bout du projet.
Et puis, si tu as une grosse avance, tu peux payer les gens.
Voilà. Il y a une question qui revient souvent, c'est marrant quand je rencontre des jeunes et tout, effectivement, quand on parle d'avance, justement. Du coup, quand on dit le mot avance, pour eux, c'est en mode, du coup, on donne un certain montant. Et puis, si par exemple, le projet, il ne génère pas ce qu'ils ont donné comme avance, ils doivent rembourser.
Non, c'est faux. Oui,
enfin, ça, voilà. Ça.
Mec, hein. C'est pas censé être le cas.
Mais
vérifie ton contrat avant.
Ça dépend pour qui. Ouais.
Ah,
parce que ça commence ou pas. Ouais.
Ah, ça commence à. Ouais.
Non, parce que
c'est.
Non, en fait,
c'est recoupable.
En fait, c'est recoupable. Mais en fait, normalement, c'est recoupable.
Tant que t'as pas recoupé,
ouais.
Tu restes ici.
Ça, c'est. Mais oui, les avances sont censées être recoupables et non remboursables. C'est-à-dire qu'en gros, si ça flop, c'est pour eux, pas pour toi. C'est eux qui ont perdu, pas ta part.
Ok, donc très bien. Donc là, pour ce qui est des contrats et de ce que vous êtes en train de m'expliquer, finalement, les maisons de disques sont toujours là pour avoir leur rôle. Mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'au bout d'un moment, les maisons de disques ne vont pas se transformer strictement en banque? C'est-à-dire qu'elles vont arriver, investir sur des artistes, et à un moment donné, il y aura des structures un petit peu comme celle de Flo, un petit peu aussi comme la tienne Kirsch, qui vont pouvoir aider les artistes à...
Et aussi la tienne, Céline Remarquera, en quelque sorte. non, mais oui, parce que tu manages, finalement.
Depuis tout à l'heure, elle attend que tu dises...
Non, c'est
pas vrai. C'est la base, déjà.
C'est la partie comme le TikTok de Colombien, c'est mec qui l'enchaîne.
Tu vois. Mais est-ce qu'à un moment donné, les maisons de disques vont pas se retirer tout doucement, on va dire, de la direction artistique? Parce que finalement, au départ, avant les réseaux sociaux,
c'est la direction artistique.
C'est déjà le cas, là,
d'ailleurs. Oui. Alors complètement, oui, mais justement, alors.
Laissez-moi.
Il y a le marketing, il y a la DA, il y a plusieurs choses. Ouais. Mais avant. Les artistes, dans les années, disons, 2000, avant le développement d'Internet, les artistes avaient besoin de signer. Mmh. Et ensuite, on faisait tout avec la direction artistique, etc. Aujourd'hui, on voit bien que les artistes font tout au départ. Donc, ils se développent artistiquement parlant et ensuite, ils signent. Donc, il y a eu une étape, en fait, que les artistes ont repris en main. Maintenant, avec le développement d'agences et avec le temps, avec les réseaux sociaux et compagnie, est-ce qu'à un moment donné, les maisons de disques vont de plus en plus se tourner vers l'investissement, c'est-à-dire prendre 10 artistes, investir sur eux, il y en aura 9 qui ne vont pas péter, mais il y en aura un qui va péter, et du coup, la maison de disques va récupérer son argent. C'est déjà le cas. Mais
non, ça, c'était plus le cas avant que maintenant, en fait.
Ok, donc toi, tu...
Parce que, en gros, avant...
Pas forcément. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus de ressources en interne avec
avec les distribs, tu peux pas prendre de risques. C'est ça qu'il faut retenir. En distrib, tu peux pas prendre de risques. Parce que c'est pas avec tes 20% en tant que distributeur que tu vas pouvoir te refaire. Pour ça, il y a une vraie problématique. En fait, il y a un espèce de... La distrib, c'est un peu en train de saccager l'industrie. Dans le sens où... Enfin, pas saccager, mais... En gros, les maisons de disques, quand elles sont propriétaires des masters, En fait, au début, ça coûte de l'argent, parce que tu dois payer les clips, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, quand l'album il est sorti et développé, etc., c'est plus que du revenu. Parce qu'en fait, t'as quasiment plus rien à faire. Tu dois juste payer les gens qui doivent prendre. Donc, en gros, dès qu'un morceau est streamé, tu donnes un peu au compositeur, un peu à l'artiste. Peut-être tu remets un peu de marketing, mais ça s'arrête là, ouais. Tu vois. Quand t'es producteur, c'est du patrimoine. C'est de la richesse qui va générer pendant des années. Aujourd'hui, t'es les morceaux des années 80.
Ouais, c'est des assets.
C'est des assets. Les artistes qui en plus n'avaient pas les mêmes taux qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est, ils avaient des 5-6%. C'est-à-dire qu'en gros, le mec qui fait un million de streams sur un morceau des années 80, le gars, il récupère la maison disque, il récupère 95% de ce que ça a généré, tu vois. Donc du coup, ça crée de la vraie valeur. Et quand t'es en distrib, tu prends la maison disque, elle prend une petite part sur une durée limitée.
Ouais.
Donc ce qui fait que, en termes de création de valeur par rapport à avant, c'est pas du tout la même. Alors effectivement, avant, elle prenait plus de risques, parce que du coup, sur 10 artistes, il y a peut-être un seul qui marchait, mais tu rééquilibrais, parce que quand tu as 90% sur l'artiste, tu peux te permettre de dire, lui, je perds un peu, lui, je gagne, etc. Sauf que ils ont commencé à faire des distribs. Et en vrai, en France, ça arrive avec Believe et Musicast, qu'on commence à proposer des distribs.
Les taux sont pas les mêmes.
Et les taux sont pas les mêmes, donc tu gagnes beaucoup moins d'argent. Sauf que les maisons disques, elles ont dû, pour s'adapter, elles ont commencé aussi à proposer des distribs. Et du coup, le nombre de contrats d'artistes, et donc de masters qui leur appartenaient, a commencé à chuter au fur et à mesure. Sauf que, en vrai, quand tu regardes sur la durée, tu gagnes beaucoup moins d'argent. Ce qui compte, c'est la marge. C'est pas le chiffre d'affaires. C'est combien tu génères de bénéfices, tu vois. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, les maisons disques, elles ont une problématique. Soit elles vont vers de plus en plus de distrib, et ça fait des boîtes comme Believe, qui sont des boîtes qui font l'argent grâce au volume, mais qui font des toutes petites marges. Believe fait que ça va faire 10 fois moins de marge au global qu'en Universal.
Ouais.
Et sauf que Universal, s'ils vont vers les distrib aussi, comme ils le font actuellement des fois, eh ben, ils vont se retrouver dans une situation où, OK, on a des artistes, mais OK, on fait moins de taf. Mais surtout, on fait moins d'argent.
Ouais.
Et donc, du coup, leur combat aussi, ça va être à eux de se dire, bon, il faut que j'arrive à être au niveau en termes de service pour proposer d'autres types de contrats. Et aussi, à faire que je prenne des risques sur les artistes plus petits en allant leur proposer des contrats d'artistes sous licence ou de coproduction dès le début, qui soient plus agressifs, qui soient qualitatifs. Parce que si jamais elles vont vers la distribution, en fait, il y a peu d'argent à se faire.
Ouais.
Et en vrai, tu vas prendre des risques de ouf parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui te plante. Le temps que tu arrives avec le peu que tu gagnes sur les autres, tu n'arrives pas à rééquilibrer tes comptes. Donc, la distribution crée une problématique, hein. Vraiment, aujourd'hui, dans les millions de disques, il y a une problématique autour de ça, de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à faire des distribs? C'est ce que les artistes veulent, ou est-ce qu'on arrête? Et c'est compliqué. Parce que si t'arrives à faire des distribs, bah, tous les gros, tu les perds. Mais est-ce que t'es pas mieux à aller prendre des mecs de zéro, en espérant de réussir à les faire monter, et avoir, du coup, le master dessus, et il y en a que tu vas pas réussir, plutôt que faire que des gros, où tu gagnes quasiment rien dessus, tu vois. Et c'est une vraie problématique.
Ok.
Moi, pour répondre à ta question, moi, je pense que les maisons de disques, d'une certaine manière, déjà quand on parle de direction artistique, en tout cas les majors, quand tu dis maisons de disques, je pense que leur avis ou leur influence sur l'artistique, en fonction des équipes qui sont déjà staffées, même si demain t'es en licence, ou même parfois tu peux être en artiste, mais t'as déjà un peu ton équipe de compo, de réel qui bosse un peu autour de toi, déjà le côté direction artistique, recording, je pense que la maison de disque a moins son avis à donner par rapport à ça. Clairement, déjà,
je pense que même en artiste.
En artiste, des fois, il y a des mecs en artiste, mais je sais pas, ils vont voir leur gars, leur réal, tu vois, par exemple, ils vont dire, vas-y.
Ils ont déjà leur équipe un peu. Okay. Et en plus, des fois, c'est parce qu'il faut pas aussi diaboliser la chose, des fois, le DA de maison de disque, il a un bon avis aussi, c'est-à-dire qu'il donne son avis, et il peut apporter quelque chose.
Il y a des mecs comme Landry chez Millennium, c'est des bêtes de DA, tu vois.
Il peut apporter quelque chose de positif, tu vois. Et il y a aussi Sacha qui travaille chez Def Jam. En gros, tu peux apporter quelque chose de positif. C'est pas, faut pas diaboliser la maison de disque en soi. Après, sur le côté marketing, je pense que tu auras en soi, même si tu as une agence, après, il peut y avoir des agences qui se créent, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas tant que ça. Quand tu regardes même pour gérer ton budget marketing, c'est bien d'avoir quand même déjà la maison de disque qui a déjà ses entrées, qui a déjà ses process, qui va te proposer une stratégie, libre à toi de la suivre ou pas. Mais ils vont te proposer une stratégie marketing qui te permettra d'atteindre des objectifs. Donc, sur le marketing, la maison de disque aura toujours, je pense, peut-être pas un coup d'avance, mais un peu plus d'expérience que toi qui arrive après un premier projet ou un deuxième projet et qui est une équipe qui ne connaît pas forcément les différents leviers, je pense. Il y a le côté, comme on disait, direction artistique, il y a le côté marketing, il y a le côté promotionnel maintenant. Encore en promo, il y a
c'est
de plus en
RP
plus,
externe,
c'est, hein. il y a beaucoup plus de promos externes. T'as beaucoup plus d'agences, de promos externes qui font taf et qui te permettent, quand t'as un artiste, même des fois des artistes qui sont en licence, qui ont déjà des attachés presse dans la maison de disque, qui peuvent bénéficier de ce service, préfèrent aller chercher des
BC,
des Scopitone, des Neta, tout ce que tu veux, pour aller, en fonction du projet que t'as à défendre, tu vas aller voir l'attaché presse qui te correspond aussi, tu vois, l'agence qui te correspond. Parce que c'est ça, si tous les attachés presse ne sont pas les mêmes, et en fonction de ta musique, tu vas
ton, en fonction de ta musique et de tes objectifs. Tu vois, si par exemple, tu as un artiste, je ne sais pas, un peu pop, tu vas aller voir telle agence. Mais si tu as des objectifs de passer peut-être, je ne sais pas, en télé, d'un coup, tu vas prendre une autre agence. Parce que tu as des agences qui sont spécialisées web, il y en a qui sont spécialisées TV, et ce n'est pas la même chose. Ouais. Tu vois, il y en a qui sont aussi presse écrite. Donc ça dépend. Mais moi, je pense que pour synthétiser le propos, c'est que clairement, la maison disque aura toujours un certain apport sur ta stratégie de développement, mais selon le périmètre dont on parle, l'influence se réduit à mesure que les agences se développent et que les équipes des artistes sont de plus en plus staffées.
Ok. Là, on a beaucoup parlé du haut, mais là, j'aimerais revenir sur le bas avant de clôturer tout ça. Aujourd'hui, un jeune artiste qui commence, qui fait, on va dire, 100 000 vues par clip à peu près, indépendamment du style de rap, etc. Qu'est-ce qui est aujourd'hui la situation la plus préférable? C'est de signer quel type de contrat? C'est de faire quoi?
C'est impossible à savoir.
Non, c'est vraiment au cas par cas. Mais si je rebondis aussi sur ce que vous disiez tous les deux, sur ce côté où ça commence à faire mal justement aux maisons de disques, ce côté distrib aussi, parce que je pense que ce qui leur fait mal aussi, c'est que, enfin, d'une certaine manière, c'est qu'avant aussi, les artistes fermaient un peu les yeux et étaient en mode, je fais confiance, c'est une maison de disques, c'est Universal ou c'est Warner.
Enfin, il y a plus de fascination.
Voilà. Exactement, il y a une fascination. Aujourd'hui, même les artistes sont hyper curieux sur leur contrat, minutieux sur tout, sur leur direct, sur leur image, sur leurs clips.
Ils sont
beaucoup plus impliqués. Ils ont beaucoup plus conscience du côté business. Ouais. De l'industrie musicale en réalité en fait, et du coup je pense qu'il y a eu un moment, il y a eu un déclic dans tous les artistes,
je pense aussi que ça a été les erreurs des autres
qui l'ont mis
la puce à l'oreille.
Non, en vrai parce qu'il n'y avait pas le passif.
Il y a beaucoup de trucs de un tel il s'est fait carotte, un tel il s'est fait...
Nico, tu voulais dire quoi?
Ouais, en gros, c'est plus le fait que, à mon avis, à un moment donné, ils ont mis la puce à l'oreille tous ceux qui ont peut-être fait des erreurs auparavant, tu vois. On entend souvent que un tel il s'est fait carotte sur son contrat, un tel t'as mis une patate à lui parce qu'il s'est fait carotte, il voulait récupérer son contrat, machin, nan, nan, tu vois. Et en fait, je pense que avec
la patate,
avec le temps, c'est comme ça.
En gros, t'as vu, il y a eu des choses qui se sont passées dans le passé et qui fait que aujourd'hui les jeunes artistes, quand ils arrivent, ils font plus attention à ce qu'ils signent, à ce qu'ils vont signer, pour éviter justement de travailler dans le vent et de récupérer très peu, alors qu'ils auraient peut-être récupéré 3-4 fois plus. Quoi.
Après, il y a trois exemples qui pour moi ont changé. Il y a effectivement le passé, mais en vrai, les gens ils oublient vite le passé, parce que tu sais, les nouveaux artistes ne se rappellent même pas des mecs qui sont fait carottes avant, tu vois. Mais je pense qu'il y a trois exemples qui ont donné envie. Je pense que c'est plus l'exemple positif, entre guillemets. En vrai, t'as Jul PNL, qui a matrixé tout le monde.
Ouais.
Et parce que, en fait, Jul PNL, ils ont matrixé tout le monde en mode indépendant. Ouais. Et le troisième personne qui a matrixé tout le monde, c'est Freeze, quand il a dit DistroKid, je vais master.
Ouais.
Quand il a dit ça, ça a été. Moi, je le vois en rendez-vous, honte de choc. Les gens, ils viennent en disant, je vais master. Ouais. Ils savent même pas ce que c'est. Et ils disent, DistroKid, master, je veux la même chose que lui. Parce que c'est Freeze. Ouais, ils sont en mode, je veux comme Freeze, tu vois. Genre, ils disent DistroKid, master, tu vois.
Même moi, j'ai pas de contrat, je voulais mes masters.
Tu veux toujours DistroKid?
Bien sûr.
Tu veux camper?
Quand il a dit ça, j'étais obligé. J'ai appelé Ahmad, j'ai dit, je veux mes masters. Il m'a dit, mais on en a pas. Qu'est-ce que tu veux?
Si Chris, on doit répondre, personne par personne, faut-il signer pour percer? Au bout d'un moment, oui. Ou quoi, ok. Mais en soi, pas nécessairement. Mais à un moment donné, ta génération de revenus, les coûts que tu vas avoir, vont faire que pour passer un step, tu seras obligé d'avoir une force. D'une distrib, d'une licence ou en contrat d'artiste, peu importe.
Ouais, moi ce que je dis, c'est que t'as pas besoin de signer pour percer, parce qu'en général, tu commences à percer avant.
Voilà.
Par contre, si tu veux te professionnaliser et pérenniser, tu dois signer. Mmh. Et maintenant, le type de contrat, il n'y a aucun contrat magique. Mmh. Les maisons de disques, elles ont un apport au-delà de l'aspect financier. Elles ont une vraie compétence.
Bien sûr.
Maintenant, c'est à toi de voir ce dont t'as besoin par rapport à tes compétences et tes besoins. Et c'est au cas par cas. Et ce que t'as besoin sur le premier, c'est forcément ce que t'as besoin sur le deuxième, ni sur le troisième. C'est pas parce que ton voisin, il a ça que c'est bien. Et un dernier point que je dois préciser, tous les montants que vous entendez, ils sont faux quasiment. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent te voir en disant « lui, il a signé pour ça », c'est faux. Il n'a pas signé pour ça. En général, il a signé pour ça, il a pour trois albums, le mec qui a multiplié trois albums, il a dit « il a pris 1 million ». Non,
il a pris 350 000, truc,
il a eu ça, et en vrai, tous les montants, et c'est un casse-tête.
Ça, c'est relou aussi, là.
Mais c'est tous les trucs que tu entends, c'est faux.
Et est-ce qu'il faut vraiment compter sur l'avance sur la signature?
Alors, non, parce qu'en vrai, l'avance, c'est qu'une avance.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est quand même, tu connais, c'est important psychologiquement.
Ça fait plaisir.
Mais ça, c'est des avances.
C'est ça, mais je pense que c'est important de dire aussi.
Les avances, c'est que des avances.
Voilà.
Il veut des avances.
Et vous en pensez quoi? Alors, vous, comment vous répondriez à...
Non, en vrai, moi, je rejoins Flo, je rejoins Kersh dessus. En vrai, percer, ouais, percer, tu perces.
T'es blasé par les rappeurs
non,
qui
mais en vrai...
T'es allé les voir dans leur quartier, là.
Non, ouais, mais en vrai, ça... en vrai percer, le mot, il arrive très tôt, tu vois. À partir du moment où t'as fait 1 million de vues, ce qui est pas, je vais pas dire facile, mais c'est beaucoup plus simple qu'avant de faire 1 million de vues, t'as percé, quand même déjà percé. Tu vois, on te connaît un peu plus que dans ton quartier, etc. Donc... percer, c'est déjà fait. Après, oui, si tu veux durer dans le temps, je pense qu'à un moment donné, tu vas devoir poser ta signature quelque part et opter pour un contrat. Après, comme ils le disent, je pense que c'est au cas par cas. En vrai, tu vois, sur ce genre de choses, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un truc que je maîtrise, ouais. Mais tu vois, c'était super intéressant aujourd'hui parce qu'en fait, je me dis, si j'étais un artiste, tu vois, si j'étais un rappeur, je tombe sur cette vidéo, je trouve qu'il y a pas mal de réponses, il y a pas mal de conseils aussi.
Du coup, t'as moins peur du contrat d'artiste.
Bah là, pour le coup, je suis à deux doigts d'aller signer, en vrai.
On est 9 ans comme ça, je t'ai signé au bon endroit.
Je propose un master, mais non, je trouve ça grave intéressant, tu vois, même si la question elle-même, bah, t'y réponds en une phrase, mais après, il y a énormément de conseils, énormément de choses à savoir, tous ces contrats qui sont différents, et je pense qu'on a pas mal de réponses aujourd'hui, donc je trouve ça cool.
Ok, Céline.
Ouais. Oui, bah après, si on répond à la question, comme on disait, est-ce qu'on a besoin de percer pour pouvoir signer? Alors non, effectivement, parce qu'effectivement, c'est à toi déjà de donner tous les moyens pour pouvoir attiser la curiosité des maisons de disques ou quoi, ou même du public, tout simplement, d'aller effectivement faire en sorte de toi-même, en fait, faire voir ta musique, tu vois. Faire des freestyles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi, pas forcément mettre des moyens de ouf, mais c'est à toi aussi de pouvoir créer cette curiosité autour de toi, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a tellement d'artistes. Donc effectivement, ouais, maintenant, malheureusement, c'est ça, il faut te démarquer. Et si tu arrives justement à créer ce truc autour de toi, cette curiosité autour de toi, après, peut-être que tu vas pouvoir percer et là, t'intéresser aussi aux contrats qu'on va pouvoir te proposer. Et bien lire tes contrats, effectivement, il n'y a pas de bons, mauvais contrats, ça, il faut arrêter de... diaboliser effectivement les contrats d'artistes ou les autres contrats, c'est en fonction de toi, ce que tu sais besoins, que tu peux apporter, tes besoins, effectivement. Après, si tu sais qu'effectivement, t'as un gros budget derrière toi, t'as une équipe derrière toi, bah ouais, et que t'es solide, fonce aussi dans la disque, c'est ce que je veux dire. Donc, ouais.
Ok, bah, je pense qu'on a apporté pas mal d'informations. Merci beaucoup, les gars. C'était super intéressant, des points de vue différents, en plus par des insiders de l'industrie. Bah, n'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo. Donc, c'était Chris d'Iconic pour Deal et Terme. Merci beaucoup, les gars. À la prochaine fois. Cheers.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.